Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, la crise libyenne est-elle sans issue ? La Libye est-elle en train de sombrer dans un conflit au long cours, dans une guerre longue et sanglante, pour reprendre les termes de l'ancien ministre libanais Ghassan Salamé. Aujourd'hui émissaire des Nations Unies pour la Libye, il a fait part de son désarroi ce mardi au Conseil de sécurité de l'ONU à propos d'une situation qui paraît inextricable et qui pourrait conduire, a-t-il dit, à la division permanente du pays. Depuis début avril, la Libye est à nouveau en situation de guerre civile. Celui qui est présenté comme l'homme fort de l'est du pays, le maréchal Haftar, a lancé une offensive sur la capitale Tripoli. Il dit vouloir en déloger les milices et leurs alliés islamistes, mais il combat aussi les forces du gouvernement d'union nationale, reconnues par la communauté internationale. Pour ajouter à la confusion, il y a les puissances régionales. L'Arabie Saoudite et l'Égypte soutiennent un camp, la Turquie et le Qatar, celui d'en face. L'embargo sur les armes, décrété en 2011, paraît totalement inefficace. Une organisation comme Daesh en profite pour remobiliser ses troupes. La France tente d'assurer la médiation. Après avoir reçu le Premier ministre libyen début mai, Emmanuel Macron doit accueillir son rival cette semaine. Paris a une responsabilité dans cette crise, mais aussi des intérêts à défendre. Bref, le sort de la Libye va bien au-delà de ses frontières. Alors la crise libyenne est-elle sans issue ? C'est une question que je vais poser ce soir à trois invités, à commencer par vous, Hélène Bravin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse indépendante, spécialiste de la Libye. Vous avez publié l'an dernier aux éditions Éric Bonnier, Libye des révolutionnaires aux rebelles. Pour discuter avec vous, il est en duplex des studios de France Bleu à Aix-en-Provence, Ali Ben Saad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8, spécialiste du monde arabe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Vous publierez d'ici quelques jours aux éditions de Beck un livre sobrement intitulé Libye. Et puis notre troisième invité connaît bien la maison, c'est Omar Waman. Bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Journaliste, grand reporter à Radio France et donc à France Culture. Vous avez effectué plusieurs séjours en Libye. La première fois c'était en 2011 au moment de la chute du colonel Kadhafi. La dernière fois c'était au début de ce mois. Vous étiez à Tripoli. Ça ressemblait à quoi d'ailleurs cette ville ? Est-ce que c'est une ville en état de siège ?
Oui. C'est une ville dont les habitants retiennent leur souffle. C'est une ville, par laquelle on arrive dans cet aéroport de Mitiga. L'aéroport de Mitiga, c'est l'aéroport qui se trouve en plein cœur de Tripoli. Habituellement, on arrivait via l'aéroport international de Tripoli, qui est en partie détruit en raison de combats qui ont opposé des milices rivales. Donc, petit aéroport militaire devenu aéroport civil et accueille glacial, polaire à l'aéroport, avec un passeport français. On n'est pas forcément le bienvenu en raison de la position de la France qui considère, on va le développer, que le maréchal Haftar qui a pris d'assaut cette capitale de Tripoli comme faisant partie de la solution pour régler le conflit libyen, étant incontournable, c'est le mot utilisé par Monsieur Le Drian.
On aura l'occasion effectivement de revenir sur la façon dont la France est perçue et sur le rôle que peut jouer la France dans ce conflit. Encore un mot, Omar Waman, s'agissant des combats, c'est-à-dire est-ce que Tripoli aujourd'hui c'est une ville où on se bat ou bien est-ce que les combats ont pour l'instant encore lieu à l'extérieur de la capitale ?
Alors l'offensive a été brutale, elle était voulue éclair par le maréchal Haftar, elle a eu lieu le 4 avril dernier. Le maréchal Haftar a misé sur une division des milices qui contrôlent cette ville de Tripoli et elles ont fait corps, elles ont repoussé ces forces du maréchal Haftar aux portes de Tripoli, mais il a pu pénétrer à environ, moi j'étais sur la ligne de front, environ 15-16 kilomètres du centre-ville, 16 kilomètres des ministères clés, de la banque centrale, et pour l'instant la situation est figée.
Alors le maréchal Haftar, c'est un nom dont on va beaucoup parler au cours de cette émission, c'est évidemment un des hommes clés de ce conflit, il faut le présenter parce qu'il faut bien dire que la Libye, même si on en parle de temps en temps dans les médias français, ça n'est pas le sujet qui fait la une de l'actualité internationale. Hélène Bravin, d'où vient-il ce maréchal Haftar ? Il fut un soutien du colonel Kadhafi avant d'en être un des opposants.
C'était d'ailleurs un de ces hommes loyaux. Qui a été mis en poste au Tchad, justement en raison de sa loyauté, et qui a été défait par les troupes d'Issanabré. Il a été fait prisonnier d'ailleurs, et à la suite de quoi Kadhafi le renie au sein de son armée. Il lui dit « tu n'appartiens plus à mon armée ». Ça a été un déshonneur pour Haftar, qui s'est réfugié, quand il a été libéré, il s'est réfugié aux États-Unis. Il a été pris en charge par les CIA, comme tous les opposants libyens de l'époque. Il a essayé de créer une armée avec des anciens du Tchad, etc., pour contrer Kadhafi, puis ça n'a pas marché. Il y a eu aussi des mésententes sur les finances. Enfin, c'était pas très clair. Et il a attendu 2011 avant de revenir en Libye.
Il est parti en Égypte.
Il a fait un créneau en Égypte où il est devenu homme d'affaires et il est revenu en Libye en 2011.
On dit de lui, Hélène Bravin, que c'est l'homme fort de l'est de la Libye. C'est une façon de le présenter qui vous semble convenir
oui,
à ce qu'est vraiment son statut.
Tout à fait, parce que bon, il a défait quand même Benghazi. Enfin, il a combattu les djihadistes à Benghazi. Il a pris en main les installations pétrolières de l'est. Et là, il est actuellement. Enfin, il a conquis aussi le sud et une partie de la frontière ouest. Donc, c'est quand même un homme fort, effectivement.
Et il s'est lancé, Aline Ben Saad, début avril, dans une offensive sur Tripoli. Avec quel objectif d'ailleurs? Est-ce que l'idée c'est quoi? C'était de conquérir la capitale, de démettre ceux qui ont le pouvoir pour le prendre à leur place? Comment est-ce que cette offensive a été justifiée alors qu'on était plutôt dans une période où on parlait, alors même si c'était avec prudence et beaucoup de réserve, mais d'un processus politique qui essayait de se mettre en place?
Eh bien, moi, je reprendrai les termes de Hassan Salamé. C'est une tentative de coup d'État, rien de plus, parce que, justement, on était à une semaine de cette fameuse rencontre interlibyenne qui devait se faire pour la première fois en Libye et qui a été au-delà des acteurs politiques et militaires qui monopolisaient la scène en apparence, mais qui n'avaient pas d'ancrage social dans le pays profond. Et je crois que le travail intéressant qu'a fait Hassan Salamé, ça a été d'avoir réussi à faire participer et à mobiliser les acteurs dans leur diversité et en descendant au plus profond de la société. Je crois qu'il y avait un véritable processus de reconstruction étatique parce que, en fait, un État fiable, crédible, solide doit aussi avoir un ancrage dans la réalité. On ne peut pas imposer la démocratie, on ne peut pas imposer l'État. Et c'est en ce sens où l'intervention de Haftar, il y a aussi d'autres éléments, on en discutera, elle avait pour but, en fait, de faire avorter ce processus. Pourquoi? Parce que, en fait, Haftar n'a jamais cru qu'à la possibilité de prendre le pouvoir par la voie militaire. Et je rebondis sur les interventions de Hélène Bravin, que je salue par ailleurs. Et ben, 2011, après, il a cherché à prendre la direction de l'armée, ce que le CNT lui a refusé. Il y a exactement 5 ans, il a tenté un coup d'État qui a échoué. Le 14 avril 2014, en mai, il a attaqué le Parlement, et puis, donc, il y a eu l'opération Karama. Vous parliez tout à l'heure de la prise en charge des installations pétrolières. Elle s'est faite aussi comme une sorte de coup d'État, parce que, en fait, c'est au moment où les brigades de Misrata étaient en train de ferrailler contre Daesh, qu'elles réussiront d'ailleurs à déloger au bout de 6 mois, alors que Haftar a mis 3 années pour déloger des islamistes, mais pas seulement des islamistes de certains quartiers de Benghazi. Et c'est au moment où le processus de Sreerat avançait que même les ailes les plus dures de Misrata étaient disposées à accepter que Haftar prennent la direction de l'armée, mais bien sûr sous une direction politique, qu'il a en même temps pris ces installations pétrolières très facilement, puisqu'il n'avait pas d'opposants, et que d'ailleurs, il reprochait souvent que c'était des milices mafieuses, mais Jadran, qui l'a chassé, était un allié
alors,
de Haftar. Je ferme la parenthèse.
Ouais, pardonnez-moi, ouais, juste peut-être pour pas aller... Alors, même si la situation est extrêmement complexe, je sais que c'est évidemment plus que tentant hein, pour vous trois d'aller dans cette très forte complexité. Mais la situation en Libye n'était pas forcément, comme je le disais au début, quelque chose que l'on maîtrise absolument. Je pense que voilà, c'est peut-être bien d'aller peut-être moins dans toutes ces nuances-là pour la bonne compréhension de l'émission. Mais je vous laisse terminer votre phrase, Ali Ben Saad.
Non, je disais que en fait, Haftar a toujours eu comme objectif une prise de pouvoir militaire et à l'encontre de tous les acteurs politiques libyens. Il y a l'alibi de l'islamisme, mais c'est un très faux alibi, parce que si je prends le cas de Tripoli...
Alors attendez, excusez-moi Ali Ben Saad, je vous coupe à nouveau, juste pour qu'on puisse bien entendre aussi Hélène Bravin et Omar Waman, mais promis, on revient vers vous.
Très bien, parfait.
Alors, juste, je vais rebondir justement sur ce que vous disiez. Donc, vous dites, le maréchal Haftar, donc, qui a lancé cette offensive sur Tripoli début avril, dont Ali Ben Saad disait, en reprenant les mots de l'émissaire spécial de l'ONU, Hassan Salamé, que c'est un coup d'État. C'est une façon de vouloir prendre le pouvoir par la force plutôt que par les urnes. Est-ce que ça témoigne peut-être d'un niveau d'impopularité du maréchal Haftar en Libye? C'est-à-dire que s'il y avait un processus politique, les Libyens ne le voudraient pas forcément à la tête du pays. Hélène Bravin et ensuite Omar Waman.
Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Je pense que les Libyens sont assez partagés. Beaucoup de Libyens cherchent la sécurité. Et Haftar pourrait, dans leur imaginaire, leur apporter. Moi, je voudrais revenir
Restons sur cette question, si vous voulez bien. Pourquoi, dans ce cas-là, choisir plutôt la force, l'opération militaire plutôt que le processus politique?
Je voulais revenir là-dessus en disant qu'il y a eu défaillance des deux acteurs principaux, à savoir le Premier ministre Al-Sarraj et Haftar. Il n'y a pas eu qu'Haftar de son côté. Bon, alors après, pourquoi Haftar a choisi cette solution militaire? C'est qu'il y a eu aussi défaillance dans le processus politique. C'est-à-dire que les deux hommes forts se sont pas mis d'accord sur des éléments d'entente. C'est un peu ce qui résultait de la réunion d'Abu Dhabi. Ils devaient se mettre d'accord, aller dans le processus politique. Ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, Jean-Yves Le Drian met deux ados, et je suis d'accord avec lui, met deux ados, les deux acteurs qui n'ont pas été au-delà de ce qu'ils devaient faire. Voilà.
Vous êtes d'accord, Omar Waman?
Mais sans condamner, Jean-Yves Le Drian, sans condamner l'offensive du 4 avril du maréchal Haftar. Simplement, le maréchal Haftar a lancé cette offensive au nom de la lutte contre le terrorisme.
Alors,
c'était son argument. Or, ce que disent les Tripolitains, moi j'étais à Tripoli, ce qu'ils disent aujourd'hui, notamment ces milices qui défendent la capitale et donc où siège le gouvernement d'union nationale reconnu par les Nations Unies, c'est que nous avons combattu Daesh à Sirte en 2016, pendant 6 mois, on vient de le dire. Ce n'est pas le maréchal Haftar qui l'a fait. Donc cet argument-là, il est battu en brèche. Ensuite, il y a le sort que le maréchal Haftar pourrait faire subir à la capitale, Tripoli, qui était en 90%, en tout cas dans sa grande majorité, dans sa grande partie, épargnée par les combats depuis 2011. Benghazi est en partie détruite aujourd'hui. Ce sont des quartiers, notamment dans l'Est, rasés. Ce n'est pas le cas de Tripoli. Et les Tripolitains ont peur d'être les témoins de la destruction de leur ville et de devoir la quitter. Sarraj a argumenté, il a expliqué que cette bataille de Tripoli pouvait pousser jusqu'à 800 000 migrants vers les côtes européennes.
Sarraj, donc on rappelle, c'est le premier ministre libyen. Donc il y a des forces nationales. Avec, vous évoquiez des milices, Omar Waman, donc ce sont des milices qui combattent de manière peut-être opportuniste aujourd'hui, dans le sens où elles n'ont pas forcément toujours été, les unes à côté des autres et à côté de l'armée nationale libyenne, mais qui combattent donc les troupes du maréchal Haftar. Pour vous, donc, l'idée que le maréchal Haftar vient combattre le terrorisme, ça n'est qu'un prétexte?
Alors, il faut savoir que la capitale, Tripoli, est effectivement tenue par ces milices qui sont progressivement intégrées au sein de la police et de l'armée libyenne. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Tripoli est aujourd'hui aux mains d'islamistes qu'on va mettre dans la case salafiste, frères musulmans, soutenus par le Qatar et la Turquie, contre l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite qui vouent une haine féroce contre ses frères musulmans.
Hélène Bravin.
Alors, effectivement, Haftar est dans une radicalité hein, quand il désigne les milices de Tripoli qui sont, qui soutiennent le gouvernement d'Al-Sarraj, du Premier ministre. Il est effectivement dans une radicalité, mais ce sont quand même des milices criminelles qui kidnappent, qui volent, qui s'adonnent à des trafics humains. Enfin, ce sont pas non plus des démocrates. Hein, c'est clair. Donc,
est-ce que pour Haftar... autant on peut les qualifier de groupes terroristes?
Non. De par la définition des organisations internationales, non. Il n'y a pas les milices de Tripoli qui sont actuellement à Tripoli. Alors, il y a. Alors, là où Haftar a raison, c'est qu'il y a effectivement des éléments de Daesh à Tripoli. Voilà, il y a eu des attentats qui ont été commis il n'y a pas très longtemps au ministère des Affaires étrangères, à la NOC, National Oil Corporation, qui ont été commis contre les Libyens. Donc, je veux dire, il y a en toile de fond effectivement des terroristes à Tripoli, mais les milices en tant que telles qui soutiennent Al-Sarraj ne sont pas des terroristes. Bon, il est dans une radicalité.
Ali Ben Saad, quand donc le maréchal Haftar lance avec son armée de libération nationale l'opération intitulée « Déluge de dignité » et qu'il le fait au nom de la lutte contre le terrorisme, vous diriez que c'est un pur prétexte pour faire un coup d'État, que cette dimension-là de lutte contre le terrorisme, elle est totalement, comment dire, elle n'entre pas véritablement en jeu? Ou bien est-ce qu'il y a quand même, comme le disait Hélène Bravin et Omar Waman, des groupes radicaux sur le terrain qui ne sont pas des groupes pacifiques, loin s'en faut?
Absolument pas. Il faut dire que, justement, ce sont des milices radicales qui dominaient effectivement Tripoli avant la venue de Sarraj, qui se sont opposées à sa venue et qui l'ont empêché d'ailleurs temporairement. Et il y a eu tout un processus très lent parce que, justement, il y avait un processus politique qui a fait que beaucoup d'acteurs se sont délestés de ce rapport pesant avec des milices. Les milices radicales, en fait, quand est-ce qu'elles sont devenues importantes à Tripoli? C'est lorsque le maréchal Haftar a lancé son opération Dignité et qu'il a légitimé quelque part ces radicaux. Alors, je fais court, en 2007, les dernières milices radicales ont été chassées de Tripoli. Elles sont réfugiées actuellement en Turquie, etc. Donc, il y a les seuls islamistes militaires qu'il y a actuellement, ce sont des salafistes maîtralistes qui sont plutôt dans la relation clientélaire avec l'Arabie Saoudite et les Émirats et qui devaient servir d'ailleurs, si je peux dire, de cheval de Troie pour l'entrée de Haftar, et ça ne s'est pas fait parce que ce que je pense, c'est que cette attaque a été précipitée. Je prends aussi l'autre cas, Misrata est présenté comme un fief de l'islamisme, ce qui est absolument faux. Il est vrai que les têtes de pont de l'islamisme politique, parce qu'il est produit contradictoire de la modernité et que Misrata est une ville moderne en son tissu, mais les islamistes radicaux et même, si je peux dire, les autres, n'ont aucun impact sur cette ville. Les frères musulmans, enfin, qui sont en recul permanent, n'arrêtent pas de lancer des offres de négociation à Haftar. Donc, en fait, si je peux dire, c'est un peu comme partout dans le monde arabe où l'autoritarisme essaye de se légitimer par la lutte contre l'islamisme, et on aboutit aux deux choses, moins de démocratie et beaucoup plus d'islamisme radical.
Vous n'avez pas l'air entièrement d'accord, Hélène Bravin.
Oui, il y a des éléments sur lesquels je ne suis pas d'accord. C'est des accords d'analyse, voilà, des accords d'analyse, et notamment sur les Magdalis, voilà. La milice qui est à Tripoli, qui est dirigée par Kara, n'est pas du tout d'obédience magdaliste, en tous les cas.
Bon, alors effectivement, là, on est dans l'hyper-nuance. Sur ce que dit quand même Ali Ben Saad, c'est-à-dire que dans le monde arabe, voilà, c'est cet autoritarisme qui prend pour prétexte les questions liées au terrorisme pour justifier ses actions. Manifestement, ça a l'air aussi de marcher d'un point de vue diplomatique, puisque l'offensive du maréchal Haftar sur Tripoli contre un gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale, on ne peut pas dire que cette offensive ait été condamnée de manière extrêmement ferme. J'ai l'impression qu'il y a une certaine, comment dire, que cette fameuse communauté internationale est assez partagée finalement.
Non, la France, puisqu'on parlait de la France tout à l'heure, a dénoncé, a déploré l'intervention de Haftar, et elle a rallié d'ailleurs la résolution de la Grande-Bretagne qui dénonce l'intervention de Haftar. Elle le nomme, hein, la résolution de la résolution de la Grande-Bretagne. Donc il y a une dissension, je veux dire, de la communauté internationale de la part de la Russie et des États-Unis qui, eux, ne veulent pas se joindre à la résolution de la Grande-Bretagne.
Mais c'est quand même pas rien, la Russie et les États-Unis.
Absolument. Absolument. Donc, si vous voulez, la France, de ce point de vue-là, condamne l'intervention de Haftar. Elle ne l'approuve pas. Je veux dire, elle reconnaît en Haftar, l'homme qui combat les terroristes, mais sans approuver son aventure sur Tripoli.
Non, mais la France a dit clairement, Jean-Yves Le Drian a dit clairement, le maréchal Haftar fait partie de la solution.
Oui, absolument. Oui.
Et il est incontournable. Il est incontournable pour plusieurs raisons. Et la première,
à tel point d'ailleurs qu'il devrait être donc reçu peut-être demain, en tout cas dans la semaine, normalement par Emmanuel Macron.
Il a attendu à Paris. La Libye est un très très grand pays qui partage des frontières avec un certain nombre de pays, notamment on va les citer, je vais peut-être en oublier, mais le Tchad, le Soudan, le Niger, la Tunisie, l'Algérie, de l'autre côté l'Égypte. Ce sont des pays qui aujourd'hui ont des frontières extrêmement poreuses. D'après Sarraj, le premier ministre libyen, il y aurait entre 15 et 20 millions d'armes qui circuleraient en Libye aujourd'hui. Donc la situation est catastrophique et la crainte effectivement de la communauté internationale, c'est de voir ce pays être totalement déstabilisant pour l'ensemble de la région. Et l'homme qui est Akay Haftar, c'est un homme que l'on verrait restaurer ses frontières, en tout cas les fermer, permettre le retour de la paix.
Via une solution politique que veut préconiser à nouveau la France. Je veux dire, la France, dès le départ, a dit nous mettons dos à dos les acteurs et c'est à eux de mettre en place une solution politique qui doit passer par des élections.
Mais le processus était en cours.
Il a été défait. Je veux dire, les acteurs ne sont pas entendus sur le minima. Donc, ça a capoté. On peut dire que le processus politique a capoté.
Est-ce qu'en tout cas, il y a l'idée que ce pays a besoin de quelqu'un à sa tête qui est une autorité, peut-être même d'ailleurs qui soit autoritaire et qui puisse assurer la sécurité et empêcher cette déstabilisation qui ne serait pas une déstabilisation uniquement de la Libye, mais effectivement d'une région beaucoup plus large au Marwaman.
Moi, je vais me faire le porte-parole des tripolitains, des habitants de Tripoli qui me disaient le maréchal Haftar, on n'était pas contre. On l'attendait quelque part. On attendait cet homme fort, capable de restaurer la sécurité. Mais en intervenant de la sorte, en utilisant des armes lourdes, des avions, des drones, des chars contre la capitale, il a montré une facette de sa personnalité rejetée par beaucoup d'habitants de Tripoli, de Libyens, qui considèrent que finalement c'est Kadhafi, c'est le retour de la dictature militaire.
Et ça, c'est quelque chose dont les Tripolitains ne veulent absolument pas. Ou bien est-ce qu'il peut y avoir peut-être aussi une forme de nostalgie? Ils sont partagés, vous dites,
Hélène
Morvin?
Oui, ils sont partagés.
Vous êtes d'accord avec ça, Ali Ben Saad, cette demande, peut-être une demande d'autorité?
D'abord, le sentiment anti-Haftar est très fort. Est très fort et c'est ce qui a permis, d'ailleurs, c'est ce qui a faussé, si je peux dire, le calcul de Haftar et de ses parrains régionaux, parce que ils ont entrepris un travail de retournement de pas mal de milices. Et justement, c'est pour ça que je disais qu'en fait, les seuls islamistes qu'il y a actuellement à Tripoli, c'est plutôt des maîtralistes. Mais ils n'ont pas tenu compte du fort rejet de Haftar, qui fait qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont ralliés aux Émirats, qui ont été rachetés ou par tropisme idéologique vers les métralistes, mais ne pouvait absolument pas franchir la ligne rouge d'une allégeance à Haftar. Et effectivement, la façon dont il a mené son attaque a rappelé ce qu'il a fait un peu partout à Benghazi. À Benghazi, il a fait basculer beaucoup de révolutionnaires dans les camps de djihadistes de cette façon-là. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disaient un peu donc les autres intervenants. Je crois que le poids des puissances régionales, et notamment de l'axe Arabie Saoudite, Égypte, Émiratis, a été très important. Ils ont fait
preuve d'un volontarisme. Eux, ce sont, comme vous dites, ce sont les parrains de,
vous du maréchal Haftar.
Vous parlez des parrains du maréchal Haftar. Les parrains du maréchal Haftar, c'est Égypte, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis.
D'abord, ils sont dans un processus général de restauration autoritaire dans toute la région. Ils ont vécu très mal la vague des printemps arabes. Et ils sont un peu, je ferai la comparaison avec ce qu'était l'Union soviétique avant d'avoir envahi l'Afghanistan. C'est-à-dire dans cette situation de sensation de forteresse assiégée et la volonté de faire bouger les lignes régionales de façon volontariste. Ce sont elles, essentiellement, elles n'ont pas seulement soutenu Haftar, elles l'ont, si je peux dire, incité. Je rappellerai deux, trois petites choses. Une semaine avant l'attaque de Haftar, c'est une réunion au sommet qui a eu lieu en Arabie Saoudite. Sisi a reçu deux fois Haftar, etc. Et je crois que c'est ça l'élément important. Et la position de la France, elle est aussi conditionnée par sa relation privilégiée qui s'insère parfaitement dans les relations avec ces pays. Et la politique libyenne de la France, elle est aussi pour une part dictée par ces pays-là. On a pu à un moment donné croire qu'il y avait une divergence entre les affaires étrangères et le ministère de la Défense, mais avec le passage de Le Drian du ministère de la Défense aux affaires étrangères, tout est devenu homogène parce que l'achat d'armement, l'achat de biens d'équipement, la forte présence économique de ces pays-là en Europe et en France, leur corruption d'élite, etc. On peut aujourd'hui parler en Europe et en France d'une France-Arabie de la même façon qu'on parlait il y a quelque temps de la France-Afrique. Sauf que le rapport se fait dans un autre sens. Ouais. Regardez, toutes les élites, en fait, mangent dans les mains de ces pays-là. Je donnerai deux, trois petits exemples.
Non, un seul, si vous voulez bien, Ali Ben Saad, parce que sinon on n'entend plus les autres invités. Pardonnez-moi, mais un seul exemple et pas deux, trois. Donnez-en un, mais un seul.
Je prends par exemple Elisabeth Badinter, figure de la laïcité, sa boîte de communication, le tiers de son chiffre d'affaires, c'est l'Arabie Saoudite. C'est quand même un peu impressionnant. Quand vous avez des présidents de la République qui vont faire des conférences d'un quart d'heure pour 300 000 euros dans ces pays-là, et que tous les investissements immobiliers, économiques, c'est effarant. Effectivement, il y a une question de sécurité nationale concernant le poids de ces pays-là dans la politique française et dans la politique européenne sur le monde arabe de façon générale.
La Libye, Hélène Bravin, est devenue un terrain de compétition régionale qui dépasse bien les divergences qui existent politiques au sein de la société libyenne.
Moi, je voudrais relativiser l'influence des pays, justement, tels que l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite d'un côté et de l'autre le Qatar, la Turquie. Je veux dire, il faut savoir que ce sont les acteurs locaux qui vont chercher ces pays-là. Ils ont été déstabilisés après la révolution de 2011 et à la faveur de cette déstabilisation, ils se sont arrimés à des pays qui ont conforté leur opinion. C'est-à-dire que ce ne sont pas les pays qui sont venus pour leur dire « bon, vous faites ci, ça, ça et ça ». Ce sont les acteurs qui sont venus les voir. D'ailleurs, M. Le Drian dit parfaitement que Fatih Bachaga, qui est le ministre de l'Intérieur à Tripoli, est toujours fourré en Turquie. Voilà, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que les acteurs vont
mais ils vont faire quoi? C'est-à-dire, ils vont demander quoi? Un soutien économique, un soutien diplomatique, un soutien militaire?
Voilà, un soutien diplomatique. Alors, militaire, ça.
Militaire, on a une preuve depuis le week-end dernier.
Il faut faire attention à ça.
On va juste dire, on a une preuve, c'est fiable. On a des vidéos, on a une annonce des forces fidèles à ce gouvernement qui siège à Tripoli, une annonce selon laquelle, ils auraient reçu une trentaine de blindés. Qui ont débarqué sur le quai du port de Tripoli dans un bateau turc, venu de partie de Turquie. C'est la première fois qu'il y a une annonce aussi claire
La deuxième fois. Il y a eu au port de Khoms, Il y a eu des armes qui ont été livrées.
Non, on le sait. Les livraisons d'armes, les violations de l'embargo de l'ONU, elles sont flagrantes depuis 2011, depuis la chute de Muammar Kadhafi. Mais c'est la première fois qu'un groupe annonce la livraison au nez et à la barbe de l'Europe qui est censée surveiller cette zone de blindés venant de Turquie.
Elle ne surveille plus cette zone. Les navires ne rôdent plus sur la mer libyenne.
Mais qu'on comprenne bien, Hélène Bravin, dans la mesure où vous dites bon, il faut relativiser peut-être l'influence de ces puissances régionales sur la situation interne en Libye, est-ce que ça veut dire que pour vous, quand on parle par exemple d'un risque d'embrasement, quand aujourd'hui, quand même, l'émissaire spécial de l'ONU, Rassane Salamé, tient un discours extrêmement alarmiste sur la situation en Libye, sur cette guerre qui risque de durer pendant très très longtemps, de s'étendre. Est-ce que vous considérez qu'on est aujourd'hui dans une forme d'exagération, qu'on n'en est pas encore là?
Un petit peu, je pense. Hein. On n'est pas dans un embrasement, régional, c'est-à-dire ce qui impliquerait la main de certains pays hein, en Libye. Donc on n'en est pas. S'agissant de la livraison d'armes, les enquêtes de l'ONU sont très difficiles pour déterminer qui est l'origine de la livraison des armes en Libye. On sait qu'il y a des choses, on sait que les pistes aériennes sont reconstituées à partir d'équipements qui ont été donnés, etc., qui ont été livrés. Mais alors l'origine même est très très compliquée à trouver. D'ailleurs, l'ONU enquête encore sur les livraisons d'armes durant la révolution de 2011, hein, pour savoir qui a fait entrer des armes en Libye à ce moment-là. Donc, si vous voulez, c'est un processus très long. Et je pense pas qu'il y ait un embrasement qui viendrait des puissances régionales. Si on parle d'implication internationale de certains pays en Libye, je pense pas. Il y a depuis quelques années des livraisons, il y a dont on ne connaît pas l'origine. Donc pour l'instant, il y a des belligérants sur le terrain qui tentent de prendre le dessus mutuellement. Voilà.
Sans parler peut-être d'embrasement régional, Omar Ouaman, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une compétition régionale et que cette compétition, elle se déroule notamment indirectement avec la Libye, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui peuvent être rivaux et qui vont avoir des intérêts divergents sur l'avenir de ce pays.
Oui, ce qui est inquiétant dans cette histoire libyenne, c'est que le maréchal Haftar pensait prendre, il a fait des annonces, hein, il pensait prendre Tripoli avant le Ramadan. En quelques jours, ses forces sont stationnées aux portes de la capitale. Il faut savoir que des milices rivales qui se sont faites la guerre, à savoir les milices venues de Misrata et de Zintan, qui se détestaient, eh bien ces milices-là sont venues faire corps à Tripoli. Elles combattent ensemble aujourd'hui pour repousser Haftar. Donc ça laisse augurer une situation complexe lorsque, si jamais Haftar devait se retirer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sommes dans un processus où on ne sait pas ce qui va se passer demain.
On ne sait pas.
Parce que le maréchal Haftar ne veut pas perdre la face. C'est pas sa personnalité de se dire « je recule ». Il ne voudra pas reculer. Il est aux portes de Tripoli, il a en face de lui des hommes qui sont prêts à mourir pour combattre la capitale et des armes qui arrivent. Ça a été prouvé via le port de Tripoli.
Mais il faudrait expliquer d'où vient Haftar. Enfin, parce que cet homme-là ne sort pas de nulle part. C'est quelqu'un qui, effectivement, comme on l'a dit, est parti aux États-Unis, a été défait au Tchad, etc. Mais quand il est revenu en Libye, il n'a pas été nommé quand Abdel Fattah Younes, le chef de l'armée libyenne pendant la révolution, a été assassiné. On ne l'a pas choisi. Et je pense que ça a été probablement une erreur stratégique de ne pas le choisir. Il y a eu des purges qui ont été faites au niveau de l'armée. Il y a eu deux grandes purges en 2012 qui a concerné les pro-kadhafistes. Mais en 2013, ça a concerné des anti-kadhafistes aussi, dont le maréchal a fait partie. Donc cette méfiance vis-à-vis du politique, elle ne vient pas par hasard. Je veux dire, le politique a quand même défait l'armée. C'est ça le problème aussi en Libye. C'est comment reconstituer une armée avec le politique. Et Haftar est parti en 2014 reconstituer l'armée à l'Est. en se disant, d'autant plus qu'en 2012, il y a eu quand même un semblant d'armée qui a été constituée, qui a été reconstituée et qui a été faite à partir d'ex-djihadistes qui ont été mêlés à des militaires, ce que Haftar ne souhaitait pas. Donc, si vous voulez, c'est toute la problématique de la confrontation avec le politique. Comment le militaire peut récupérer, comment le politique peut récupérer la confiance auprès des militaires qui ont été défaits?
Ali Ben Saad, cette crise libyenne, est-ce que vous considérez que finalement la meilleure issue possible, ce serait qu'elle se règle entre Libyens et seulement entre Libyens, ou bien est-ce que de toute manière c'est impossible étant donné l'importance stratégique, l'importance géographique de ce pays et avec un processus politique qui semble totalement au point mort aujourd'hui. On voit pas très bien même comment les puissances régionales réussiraient à se mettre d'accord sur un avenir qui paraît évidemment très très incertain.
Alors moi je pense premier scénario le plus probable. C'est une guerre qui va se radicaliser et de longue durée, parce que Haftar n'a pas d'autre issue, en fait, à moins d'une mort politique totale et certaine. Et c'est le cas aussi, en fait, des puissances régionales qui le soutiennent, parce qu'elles n'ont pas d'autre alternative, en fait. Et donc, avoir fait avorter un processus politique ne donne pas de crédibilité pour vouloir y retourner. Et puis, surtout, c'est en fait l'image d'un homme puissant qui, par la force, pourrait ramener le calme, qui a été écorné par cette guerre-là. Et je voudrais rappeler, par ailleurs, que l'armée de Haftar est aussi une milice. Et que l'essentiel, c'est d'abord des salafistes madralistes dont on a vu les effets quand elles ont réussi à censurer les livres du Nobel Naguib Mahfouz, quand elles ont réussi à imposer que les femmes de moins de 60 ans ne puissent pas voyager seules, etc. Vous savez que la diversité religieuse à l'Est a disparu. C'est les maîtralistes qui ont le monopole des mosquées contre les soutiens. Je vous prie de me laisser continuer. La preuve, il y a même eu une fatwa contre les ibadites, qui sont les imazirs, les imazirennes, les berbères de Libye, contre le rite. Bon, je reviens, c'est-à-dire...
Je suis un peu en train de vous perdre, pardonnez-moi tous les trois, mais allez-y.
Oui, donc en fait, moi je pense qu'effectivement qu'on va vers une radicalisation. La seule issue, c'est laquelle? C'est toujours à l'échelle internationale. C'est en fait les pressions qu'on peut faire sur les puissances régionales qui soutiennent Haftar. On a vu un début avec les déclarations du ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis qui commence à prendre ses distances avec Haftar. Mon pronostic à moi, je pense que Haftar, en tant que qu'acteur, est complètement diminué, voire peut-être toute solution passera par sa disparition et que les acteurs, y compris à l'Ouest et internationaux, sont en train d'aller à la recherche d'une alternative. Sinon,
et il y a notamment la France qui fait partie de ces acteurs internationaux. Ali Ben Saad, vous disiez juste au début d'émission, Omar Ouaman, que l'image de la France n'était pas forcément florissante aujourd'hui, en Libye, en tout cas à Tripoli.
Oui, en raison
parce qu'il y a la responsabilité notamment peut-être de l'intervention de 2011, qui est quand même aussi le moment qui déclenche.
Et puis il y a des rumeurs qui sont totalement infondées, en tout cas difficilement vérifiable, à savoir que la France livre des armes en Libye. Ça, ce n'est pas prouvé. En revanche, effectivement, tous les vendredis après-midi, après la prière, des milliers d'habitants de Tripoli vont sur la place des Martyrs, en plein cœur de la capitale, pour manifester, pour conspuer Emmanuel Macron. Certains portent même le gilet jaune.
Il lui reproche quoi?
Il lui reproche une position ambiguë, une ambivalence qui consiste à dire je soutiens Sarraj, mais également Haftar, qui est l'homme de la situation. En tout cas, il fait partie de la solution. C'est quelqu'un d'incontournable. Ce discours-là est rejeté par les Tripolitains qui voient en Haftar quelqu'un qui veut imposer une dictature militaire.
Eh ben merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Hélène Bravin, je rappelle votre dernier livre, Libye des révolutionnaires aux rebelles. Ça a été publié
en octobre dernier aux éditions Éric Bonnier. Merci à Ali Ben Saad. Votre Libye sera publié le 12 juin prochain aux éditions Debeuc. Je rappelle, Debeuc, vous étiez en duplex des studios de France Bleu Provence à Aix-en-Provence. Et puis merci Omar Bahman qu'on retrouve dans les prochains journaux de la rédaction Grand Reporter à France Culture. Merci à l'équipe du Grand, Amélie Perrault, Jordan Joseph, Fanny Richet, Antoine Dulster, Virginie Leduo et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyré Legrave avec à la prise de son Anthony Thomasson.